Ce matin, je vous proposais une petite étude, en fait, avec un personnage. Je vais vous faire deviner, si vous voulez bien, comme ça, on va faire un petit jeu. Alors, si vous trouvez, vous dites pas, vous dites qu'à la fin. Donc, c'est un jeune homme qui est beau garçon. Il habite dans un pays qui n'est pas le sien. Il y a été emmené de force. Ça commence à venir. Il interprète les rêves. C'est bon. Et accessoirement, il devient le numéro 2 du royaume où il est. Est-ce que vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé? Et c'est? Daniel, merci. Donc, je vais vous parler ce matin du prophète Daniel. Eh ben, on va commencer une petite étude au début du livre de Daniel, hein, et puis, on va en fait observer le comportement des personnages et puis voir si leur exemple peut inspirer nos vies de tous les jours. Donc, pour parler de Daniel, il faut remettre dans le texte, dans le contexte, hein. Donc, le livre était écrit à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. C'est là où se passe l'histoire de Daniel. Et c'est pendant la période de déportation de Judas. Alors, Judas, je parle bien sûr de la tribu, je ne parle pas du traître qui trahit le Seigneur, mais bien la tribu israélienne. Donc, pour que ce soit bien clair à tout le monde, je vais faire un petit rappel historique. Donc, Israël, à sa sortie du désert d'Égypte est composée avec de 12 tribus et elles forment un seul peuple. Donc, Israël est gouverné et dirigé au départ donc par Moïse, par Josué et ensuite par les juges pendant 300 ans environ. Et puis ensuite arrive la période des rois. On a un premier roi, Saül, puis David, puis Salomon et puis tous les autres rois. Et à cette période-là arrive une scission entre les tribus. Donc, on a Roboam, qui est le descendant de Salomon, qui dirige donc la tribu de Juda, ainsi que Benjamin, et puis une partie des Lévites. Et puis de l'autre côté, on a un autre roi, Jéroboam, qui dirige lui ben, le reste des tribus. Donc, l'histoire suit son cours, et puis au bout de quelques siècles, et ces deux entités forment vraiment deux royaumes séparés. Hein? Donc, on a Jérusalem qui devient la capitale de Juda, qui deviendra la Judée, et puis Samarie. Excusez-moi. Samarie qui devient bien sûr la capitale de un autre pays qui s'appelle la Samarie et qui donnera les Samaritains. Voilà. Donc, la déportation de Juda dure 70 ans et on est Daniel, donc c'est au début de cette période. Revenons à Daniel. Où en est-on? Donc, on va observer le comportement de nos jeunes hommes dans cette histoire. On va lire le début du premier chapitre, les versets 1 à 6. Dans le livre de Daniel, si quelqu'un l'a et quelqu'un veut le lire à haute voix.
La troisième année, année du règne de Josaphim, sur Juda. Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Josaphim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar remporta les ustensiles dans le pays de Chinéa, dans le temple de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashkenaz, le responsable du génie, de faire venir quelques Israélites de sang royal, de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Merci. Donc voilà, on a 4 jeunes hommes qui viennent d'un des nombreux peuples qui ont été vaincus par le roi Nebuchadnezzar. Et donc ces 4 personnes viennent là pour le service dans le palais. Donc il faut rappeler aussi que Babylone vient de conquérir la Syrie, qui est un royaume puissant. Et puis Babylone est vraiment un endroit très important sur la terre entière, puisqu'elle influence par sa culture, par sa force, comme ont été à d'autres époques les Athéniens ou les Égyptiens. Donc là, c'est Babylone qui est au centre de la terre. Donc, pour servir, on recherche des gens instruits, raffinés. C'est pas très très étonnant en fait qu'on cherche des gens vraiment le must du must pour servir dans un palais qui est vraiment un point central. On peut trouver, même si c'est déjà écrit, je veux dire dans les proverbes, il écrit: As-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois et non à celui des gens de la base. Donc ça, c'est dans les proverbes. Donc et voilà, on cherche des gens, voilà, au top pour servir, on va dire le top du top, quoi. Donc ils sont instruits, ils sont sans défaut, ils sont sages. Voilà. Et ce qui se passe ensuite dans la suite de ce chapitre-là, c'est qu'ils vont refuser les mets de la table du roi, parce qu'en fait, comme ils sont juifs, ils ne peuvent pas partager la table avec un gentil, avec un païen. Comme ils sont juifs, ils ne peuvent pas manger certaines viandes. Et ils ne peuvent pas non plus manger des plats qui sont préparés d'une manière qui ne sont pas pour eux purs. Donc pour eux, ils ne peuvent pas partager la table, ils ne peuvent pas manger ce qu'on leur propose. Et c'est pas fait que suivant leur rite et leurs règles. Donc, ils décident de se passer de viande et de vin. Et contre toute attente, après un test, ils s'aperçoivent qu'ils sont en meilleure santé que le reste des jeunes hommes qui sont dans leur cas aussi. Ils n'ont pas été les seuls à être emmenés, il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas juifs. Et donc, ça, je vois que ça fait plaisir aux végétariens et aux abstinents. Donc, voilà, ces jeunes hommes, ils refusent de se compromettre avec les maîtres de la table du roi. Ouais, pas trop vite. Donc, suite à cet événement, ils rencontrent le roi lors d'un entretien, parce que le roi veut les rencontrer. Et là, suspense, que se passe-t-il lorsqu'il rencontre le roi? On voit au verset 19 et 20, le roi s'entretient avec eux, et parmi eux, il n'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils entrèrent au service du roi. Et dans toutes les questions qu'ils demandaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquelles le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà, fin du premier chapitre. Pourquoi ces quatre garçons sont plus sages que les notables et les conseillers de Babylone? Pour répondre à cette question, on va continuer de les observer encore dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, Nebuchadnezzar fait un rêve, un songe, et il est très perturbé par cette vision. Et donc, il appelle tous les sages, enfin, il appelle les sages qui l'entourent pour interpréter ce rêve, mais il ne leur dit pas quel rêve il a fait. Donc, les sages lui répondent que c'est impossible, ils ne peuvent pas interpréter un rêve s'ils ne savent même pas le rêve. Et seul un être divin pourrait répondre à sa demande. Et je me suis demandé, mais pourquoi le roi demande quelque chose d'impossible? Alors, dans la lecture, on s'aperçoit qu'en fait, il a un trou de mémoire à la base. Il ne se souvient plus, le songe lui échappe. Mais il sait qu'il a fait un rêve incroyable, mais ça lui échappe. Donc il se dit, vu les gens qui l'entourent, c'est l'occasion de voir de quoi ils sont vraiment capables. Et puis devant leur incapacité, il s'énerve et il les condamne tous à mort. Et donc, les quatre judéens sont condamnés avec le reste. Voilà. Au niveau de la vision elle-même, je passe volontairement sur cette vision parce que c'est vraiment, ça peut faire une étude vraiment longue. Hein, donc, on va s'arrêter à observer le comportement hein, des jeunes hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Daniel demande un délai au roi. Et le roi accepte, certainement parce qu'il a de la considération pour eux et puis qu'il les trouve sages, donc il accepte. Puis ils se réunissent et ils implorent Dieu ensemble, les quatre. Donc. Et là, on peut remarquer leur dignité, d'une part, parce qu'on leur apprend qu'ils sont condamnés à mort. Et ils vont pas aller implorer le roi qui les condamne, mais ils font preuve de bon sens, et puis ils vont négocier, et ils vont implorer Dieu. À la fin du chapitre, donc Dieu accède à la requête donc de Daniel et lui donne l'interprétation du rêve. Daniel donne l'interprétation au roi et le roi loue Dieu et honore Daniel à la fin du chapitre. Verset 48. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de riches présents. Il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême, surtout les sages de Babylone. Voilà, donc revenons encore à cette question, comment ces jeunes hommes sont plus sages que les sages et les magiciens de Babylone. Donc bien sûr, ils sont disciplinés et ils sont instruits, bien sûr. Mais c'est pas tout, ils ont plus que ça. Ils n'ont pas simplement lu des livres et puis emmagasiné des connaissances pour faire grandir une intelligence humaine. Ils se sont laissés transformer par Dieu et qui a rendu leur intelligence performante pour les emmener sur un chemin qui est le chemin de la, pardon, pour les emmener sur le chemin de la sagesse. Et cette transformation, elle est donnée par Dieu. Verset 17 du chapitre 1. Or Dieu donna à ces quatre jeunes gens la science, l'intelligence et de toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de rêves. Voilà, donc Dieu accorde à ces quatre gens toutes ces choses. Mais il y a une différence avec l'intelligence des hommes et l'intelligence de Dieu. C'est que c'est Dieu lui-même qui l'enseigne. Il écrit aussi dans l'épître de Tite, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Donc c'est la grâce qui enseigne. Et on peut voir aussi l'exemple des amis de Daniel, ce qu'elle enseigne. Elle enseigne à les garder de l'impiété, elle leur enseigne l'intelligence, le bon sens et la justice. Donc ils sont instruits, ils ont reçu la grâce, mais c'est pas tout en fait, parce que j'ai pu remarquer dans la lecture de ces deux chapitres, c'est que Dieu est présent dans beaucoup d'aspects de leur vie. Donc elle est présente dans la nourriture, ce qu'ils mangent, ils font dans leur sainteté, dans leur prière, et aussi dans leurs actions, dans la communion qu'ils ont ensemble. Donc il y a quelque chose en plus, c'est qu'ils ont su se laisser transformer par Dieu. Voilà, donc je vais faire une petite remarque par rapport à cette transformation par Dieu. C'est que se laisser transformer par Dieu, c'est pas juste attendre, prier comme ça, avec un air, béat, et attendre la transformation. Pour aller plus loin, en fait, il faut accepter la vérité. Ça sous-entend, il faut accepter de dire j'ai eu tort. Parce que la vérité, elle n'est pas dans l'être humain. Ce qui se passe dans la tête, dans nos pensées, c'est plein de choses, une espèce de grosse boule avec tout plein de trucs, et puis il sort de là-dedans des traits de caractère, des opinions, toutes sortes de choses, même des bonnes choses. Mais par nature, la vérité, elle n'est pas dans l'être humain. Elle est que en Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, tout le monde en même temps. » Ouais, la vie. Donc, ils se sont donc laissés transformer par Dieu. Ils ont accepté l'instruction. Ils ont accepté que Dieu vienne réformer leurs pensées, quoi, réformer les fondements même de leur intelligence. Voilà ce qui a fait Voilà ce qui a pu faire la différence entre ces garçons-là et puis les sages de Babylone, c'est d'accepter vraiment d'être transformé par Dieu. Et certainement, un roi ne leur a pas dicté quoi manger. Tout comme ce monde n'a pas à nous dicter notre conduite. Ce monde qui est culpabilisateur, il n'a pas à nous dicter nos actes ou nos pensées. Donc, je nous encourager à suivre l'exemple de Daniel, et puis donc de ne pas se souiller, de réfléchir à nos actes et à leurs conséquences, de ne pas nous laisser nous dicter notre conduite, et enfin nous laisser transformer. Dans la suite du texte, chapitre 3, il y a une histoire avec une fournaise. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai aussi volontairement passé la première vision qui est dans le chapitre 2, parce que ça fait l'objet d'une étude beaucoup plus longue. Mais si vous le voulez, ça peut être aussi la suite pour une prochaine fois. Donc, si vous voulez continuer avec la lecture du livre de Daniel. Voilà. C'est tout pour moi.